des savoirs, Emmanuel Bastide.
Bienvenue à l'École des Savoirs. Si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie, nous nous penchons sur des élèves pas comme les autres, du moins pas tout à fait. Je veux parler des enfants intellectuellement précoces. Ils sont curieux de tout, ils aiment souvent les sciences, les questions existentielles, la philosophie, mais aussi jouer au ballon, dans la cour, se faire des amis. Ils sont souvent plus rapides, beaucoup plus rapides en classe, et l'école ne sait pas toujours quoi faire avec ces enfants qui déstabilisent un petit peu les enseignants. Dans les pays développés, on sait les repérer avec des tests d'intelligence, mais ailleurs, le destin est-il finalement tracé par une si grande intelligence? Nous entendrons le témoignage d'un jeune béninois, major au bac dans son pays. Il a fait sa scolarité dans l'extrême nord du Bénin. Il a connu des classes de 182 élèves. Odon Vallée nous parlera de sa fondation qui aide les cracks dans son genre. Deux spécialistes de la précocité sont parmi nous. Sophie Cotte, fondatrice de l'Association française pour les enfants précoces, et Ladislas Kiss, psychiatre. Sophie Cotte, Ladislas Kiss et Odon Vallée, bonjour à tous trois.
Bonjour.
Sophie Cotte, vous avez été enseignante, principale de collège. Vous avez passé presque toute votre carrière à vous occuper de ces élèves un peu différents, disons tout simplement remarquablement intelligents.
Oui, surtout extrêmement rapides dans leur apprentissage, très sensibles, très gentils aussi.
Est-ce qu'on peut parler d'un groupe homogène? Se ressemblent-ils tous?
Non, pas du tout. Ils sont tous différents. Alors, j'étais principale de collège. Alors, quand ils arrivaient en collège, il y avait de grosses différences selon qu'ils étaient matheux, littéraires ou linguistes, mais surtout de grosses différences par rapport au vécu qu'ils avaient eu étant enfants. Il y en avait qui étaient tout à fait épanouis, donc tout prêts à étudier et contents d'être au collège, et d'autres qui avaient beaucoup souffert dans leur scolarité parce qu'ils n'avaient pas été reconnus et ils s'étaient sentis maltraités. Et là, ces enfants-là, ils arrivent, ils sont déjà en souffrance et il faut qu'on fasse beaucoup pour eux pour les rendre plus heureux.
Ladislas Kiss, ces enfants surdoués ou intellectuellement précoces, hein, les mots varient, se sentent-ils différents? Sont-ils conscients de leur différence intellectuelle par rapport aux autres enfants, aux autres jeunes?
Tout dépend de leur éveil, de leur conscience. Certains, en effet, se rendent compte qu'ils ont plus d'habileté intellectuelle ou dans certaines façons d'être, et d'autres sont empêtrés dans des mécanismes de défense qui font que même éventuellement ils peuvent échouer.
Quels peuvent être ces mécanismes de défense?
Alors, il y a plein de mécanismes de défense, notamment des enfants qui s'agitent, des enfants qui ont des TOC, enfin des troubles obsessionnels compulsifs, ouais, des phobies scolaires.
Qu'ils sont malheureux à l'école? Ils peuvent être malheureux, même s'ils comprennent plus vite que les autres.
Ils peuvent être malheureux, ils peuvent être maltraités par les autres enfants, par les professeurs qui ne comprennent pas leur comportement. Et ils peuvent devenir, pour certains, un peu tête de turc, bouc émissaire.
Alors aujourd'hui, il existe des tests pour détecter les enfants intellectuellement précoces. Tout le monde est plus ou moins au courant de l'existence de ces tests dans les pays développés.
Ça commence.
C'est l'école en général qui suggère ou ce sont les parents?
Les deux. Des émissions comme la vôtre font beaucoup pour faire passer la connaissance.
Qu'est-ce que ça permet de comprendre un test où on teste le quotient d'intelligence, hein? C'est bien cela.
Le quotient intellectuel, oui. Ça permet de situer l'enfant par rapport à ses camarades. C'est-à-dire qu'il y a une échelle. En dessous de 70, les enfants sont en difficulté, sont légèrement... c'est ce qu'on appelle la débilité légère. Et entre 120, c'est la norme. Au-delà de 130, on considère que ces enfants ont des facultés d'apprentissage plus grandes. Je pense qu'il n'est pas intéressant de dire qu'ils sont plus intelligents que les autres ou pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait pour eux, pour qu'ils soient heureux et que ça marche bien. Donc, on arrive à les situer par rapport à leurs camarades. Il y en a 2,3% qui sont dans ce cas-là. Et ces enfants-là, si on ne leur donne pas une nourriture intellectuelle convenable, eh bien, ils risquent d'être en échec et d'avoir à ce moment-là des attitudes et des comportements très difficiles à vivre.
Odon Vallée, vous dirigez votre propre fondation, la Fondation Vallée, qui vient en aide à des jeunes très brillants dans des pays en développement. C'est-à-dire que vous accueillez en France de jeunes qui
viennent... Oui, alors la Fondation Vallée a 300 boursiers dans les écoles d'art appliquées de Paris. Elle en a 2000 au Vietnam et 900 au Bénin, dont les tout meilleur, 1% viennent en France. Alors, il y a des élèves extrêmement brillants, il y en a qui sont seulement assez brillants. Dans la fondation, il y a la moitié des médaillés olympiques en maths, physique, chimie, biologie, informatique de toute la planète. J'ai eu 50 polytechniciens, donc il y a des élèves doués. Il n'y a aucun surdoué, hein, personne ne se dit surdoué. Moi, je suis légèrement sous-doué, d'ailleurs. Je suis très mauvais en sciences des arts.
Vous n'êtes que énarque, docteur en droit et docteur en sciences des religions.
J'ai toujours été mauvais en maths, en physique. J'ai beaucoup de lacunes, mais je compense ça. Dans les tests QI, je suis seulement moyen. J'ai 130, alors que j'ai des amis qui ont 160. Mais par contre, j'ai un flair animal. Je suis un petit peu comme le fameux singe de Stockholm, vous savez, du zoo, qui a une intuition extraordinaire. Alors, j'ai du flair canin. Avant tout.
Revenons à vos boursiers, puisqu'on sait que de toute façon, à l'âge adulte, on n'est plus surdoué, on redevient entre guillemets normal.
Ouais. Hein,
c'est
ce que
vous expliquez. En plus ou moins, quand Sophie Cotte.
Non, non.
Vous dites
l'enfant
que même que les surdoués
est intellectuellement précoce,
et puis après,
mais quand il est adulte, il va, avec son intelligence, il va continuer, qu'il ait réussi ses études ou pas, il va être différent. Et l'adulte est surdoué.
Mais on ne devient pas un génie pour autant.
Ah ben, il y a certains génies, mais
hors normes.
Non, c'est pas. Il y a des génies. Il y en a eu de tout temps. Mais on n'en parlerait pas tellement s'il n'y avait que.
Odon Vallée, vos boursiers, en général, ne sont pas testés. On n'organise pas
bien
de tests.
Bien sûr que non. On regarde leurs résultats scolaires de manière très, très approfondie, les bulletins scolaires et les diplômes. Et on détecte même les faux diplômes. Donc, tout est authentique, rassurez-vous. Oui, le problème des faux diplômes est un des plus graves dans le monde à l'heure actuelle, surtout avec Internet. Non, tous les dossiers scolaires sont contrôlés, mais il n'y a pas de test particulier.
Alors, on va entendre un de vos boursiers. Amélie Niard, notre reporter, a recueilli le témoignage d'Espérant. Il a 21 ans, il est béninois, il a grandi dans l'une des régions les plus pauvres du Bénin, à Malanville. Et il a raconté à Amélie qu'il avait commencé dans une classe de 182 élèves. Ensuite, il a eu la chance d'entrer dans une classe à effectif réduit, 150 élèves. Et ensuite, il a étudié à Cotonou pour le lycée. C'est là qu'il a eu son bac. Premier de tous les bacheliers. D'ailleurs, il a toujours été premier. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il est en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris, Espérant.
Au début, quand j'allais travailler avec des camarades en groupe, j'avais l'impression que je n'apprenais pas grand-chose parce que, relativement par rapport aux autres camarades, je maîtrisais plus vite les choses qu'eux. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle ma mère avait voulu m'interdit d'aller travailler avec des camarades parce qu'elle pensait que ce serait désavantageux pour moi. Mais mes professeurs, en général, ont pensé que ce serait quand même bien que j'aille et que j'apprendrais toujours des choses. Et c'est surtout à partir de la classe de troisième que mes professeurs ont commencé particulièrement à me dire qu'ils trouvaient que j'avais un peu plus de potentiel que mes autres camarades. Parce que en classe de troisième, il y a en général des concours qui sont organisés au Bénin, des concours de maths, de physique, de dessin. Et c'est vrai que j'étais pas particulièrement doué en dessin, mais en classe de troisième, à tous les concours auxquels je participais, je remportais le premier prix. Et donc mes professeurs me disaient tous que j'avais des chances d'aller loin et qu'il faudrait qu'ils me donnent des cours particuliers, tout ça.
Et vous avez eu des cours particuliers ?
Des cours particuliers, finalement, je n'en ai pas eu au secondaire parce que les moyens manquent et que des élèves qui comprenaient aussi très rapidement, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ce serait vraiment dommage qu'on crée une classe juste pour moi ou pour deux ou trois personnes, alors qu'il y a des classes de 152 élèves où les enfants ont besoin de professeurs, de maîtres.
Quand on vous dit que vous êtes surdoué, vous, quel effet ça vous fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Parce que quand je rentre en moi-même et que je me pose des questions, je me dis, Espérant, tu as des limites. Tu ne connais pas tout. Il y a des exercices face auxquels tu n'arrives pas à trouver la réponse ou bien face auxquels tu arrives à trouver la réponse au bout de 4 heures. Donc là, quand je regarde toutes ces insuffisances, je me dis aussi que je ne suis pas surdoué. Mais par rapport à d'autres, bon, je dois dire quand même que je m'en sors plutôt mieux. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de mes camarades qui comprennent moins vite que moi, mais il y en a aussi qui comprennent plus vite que moi. On est surdoué par rapport à quelqu'un d'autre. On ne peut pas être surdoué de façon absolue. Et c'est pour cela que je relativise la notion de doué et de surdoué.
C'est exactement ce qu'on veut.
Ladislas Kiss, quelle est la réaction du psychiatre quand vous entendez ce jeune béninois?
Je pense que c'est vraiment parfaitement analysé, auto-analysé. Donc il est parfaitement surdoué parce qu'il a beaucoup de modestie. Et cette modestie, elle est liée à une tendance perfectionniste. Donc il se rend compte qu'il ne pourra jamais tout savoir. Et c'est surtout sa modestie qui est intéressante.
Odon Vallée.
Alors Espérance, c'est un doué, pas un surdoué. Sauf dans un domaine, c'est un surdoué du comique. C'est un antidépresseur de nouvelle génération.
Là, il nous a pas fait de
sketch.
Africain, hein.
Africain, française, français, vous pouvez jeter vos tablettes d'antidépresseurs. Une soirée avec Espérant vous remonte le moral.
Ah, c'est un clown
parce
aussi.
Parce que il a une jeunesse très difficile, extraordinairement difficile, et il a appliqué à fond ce principe de Haydn. De mes grandes douleurs, je fais de petites chansons.
Sophie Cotte, alors évidemment, là, ce sont des jeunes qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'au Nord, dans les pays du Nord, où finalement se pose plus la question de leur confort, du développement de leur talent.
Je pense qu'ils ont des problèmes différents, mais dans les pays occidentaux, ils ont aussi des problèmes parce que très souvent, la pression scolaire est telle qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour travailler comme ils devraient le faire. Ils ont besoin de travailler à leur rythme et d'une façon tout à fait spécifique. On ne les autorise pas à ça et très souvent, vers la cinquième ou la quatrième, ils commencent à être en échec scolaire. Et là, il y a une grande souffrance. Et alors qu'au Bénin, on doit chercher à découvrir ces élèves brillants, en France, on les a sacrifiés très longtemps au nom de l'égalitarisme. Alors, la situation est en train de changer. Et ça, il faut s'en réjouir. Monsieur Darcos a fait une commission ministérielle pour précisément former les enseignants à reconnaître ces enfants et à les aider.
Nous y revenons et on va surtout parler des familles de ces enfants très doués parce que la façon dont la famille les considère et les aide change évidemment énormément leur développement personnel.
La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien méritée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Pour l'avoir.
l'école des savoirs sur RFI. Comment aider les élèves intellectuellement précoces? Nous en parlons avec nos invités, des spécialistes de la précocité, Sophie Cotte, Ladislaskis, et vous, Odon Vallée, à travers votre fondation qui vient en aide à des élèves dans des pays du Sud, des élèves extrêmement doués. Sophie Cotte, on a le sentiment qu'il y a toujours cette hantise, finalement, du gâchis possible chez les surdoués. Et si on passait à côté de quelque chose? Et si on tuait le talent?
Exactement.
C'est finalement une angoisse qui est davantage chez les adultes?
Bien sûr, parce que les enfants, quelquefois, n'ont pas bien conscience. Mais c'est un gâchis formidable. Des enfants qui devraient parfaitement réussir, qui ne réussissent pas parce que le système n'a pas su respecter leurs besoins. Maintenant, l'État parle bien d'enfants à besoins particuliers. Hein, et c'est vraiment très, très important.
Qu'est-ce qu'on vient vous dire dans votre cabinet, Ladislaskis, en tant que psychiatre? Vous voyez les parents également, bien sûr?
Oui, alors je vois les parents qui sont catastrophés. Avoir un enfant qui est diagnostiqué par les tests ayant des capacités logico-mathématiques et verbales de haute volée, et puis de voir des résultats lamentables, oui. Ou des troubles du comportement en
oui,
classe.
Oui, parce que ceux que vous voyez arriver, c'est ceux qui ont des problèmes. Hein.
Voilà,
c'est pas
bien
les,
sûr.
C'est
moi,
pas les surdoués qui
voilà,
restent
non,
tête de classe.
Non, ceux qui vont bien, je les vois pas. Moi, j'en entends parler par Madame Cotte, ou je les vois dans la rue. Mais
vous voyez ceux qui vont mal.
Bon. Voilà.
Et là, comment ça se passe? Il y a une intense pression de la part des parents?
Oui, il y a une pression, il y a une dépression, il y a une anxiété générale, et ils ont essayé beaucoup de choses pour amender les troubles, ils ont même poussé certains enfants à prendre des médicaments, de la Ritaline, pour ceux qui étaient agités, changer d'établissement X fois, et c'est souvent des espoirs de cause qui vont voir le psychiatre, hein, c'est en dernière ligne.
Qu'attendent-ils de vous?
Eh bien, ils attendent qu'on les veille.
Qu'on
les aide, tout simplement.
Qu'on les veille, mais ces enfants sont déjà trop éveillés.
Et justement, c'est le fait d'être éveillé crée des troubles. Ça peut créer de la dépression, de l'anxiété. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, des troubles obsessionnels compulsifs. Pour ceux qui sont très anxieux, ils arrivent à être inhibés dans l'apprentissage.
Quel est le pourcentage d'enfants comme ça qui sont en échec scolaire alors qu'ils possèdent une intelligence largement au-dessus de la moyenne?
Il y en a 30% en fin de troisième qui sont vraiment en échec et 30% qui font des études qui ne sont pas celles qu'ils devraient faire. Mais je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut insister. Dans notre livre, on l'a beaucoup insisté là-dessus. C'est que moi, en tant que principale, j'ai vu des enfants
de collège
en difficulté, mais d'autres qui étaient parfaitement heureux et parfaitement bien dans leur peau, avec les difficultés spécifiques quand même, à savoir qu'il faut s'adapter au monde qui n'est pas tout à fait fait pour eux. Alors que Ladislas ne voit que des enfants en difficulté.
Alors, il y a un groupe de pays dans le monde, et pas deux, qui fait le dépistage systématique d'enfants très doués. C'est le groupe confucéen, Japon, Chine, Vietnam, Corée, Singapour.
Israël aussi.
Un peu Israël, mais Israël c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants, tandis que là c'est 2 milliards d'habitants, donc c'est le tiers de l'humanité. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Personnellement, j'ai dans ma fondation la moitié des médaillés aux Olympiades mondiales de maths, physique, chimie, biologie, informatique, donc je les connais. J'ai beaucoup d'élèves du meilleur lycée de la planète en sciences, qui s'appelle Hanoï Amsterdam. Il y a du pour, il y a du contre.
Il est où ce lycée?
Il est à Hanoï, hein, et ils ont chaque année une dizaine de médaillés aux Olympiades mondiales.
Hanoï Amsterdam.
Hanoï Amsterdam, c'est un lycée qui a été offert par la ville d'Amsterdam à Hanoï. Il y a du pour, il y a du contre de l'aveu des élèves. Non, pas du tout.
Pas seulement.
C'est un lycée pour doués ou très doués. Mais ce dépistage marche beaucoup mieux pour les disciplines abstraites. Avant tout, maths, physique, chimie. Ça marche moins bien pour les disciplines littéraires. Et d'autre part, les critères de disciplines littéraires, de disciplines scientifiques ne sont pas les mêmes. D'où un énorme problème. Ceux qui sont doués en langue, on arrive très mal à les détecter. Ce qui fait que moi, le plus doué de tous mes élèves vietnamiens que j'ai eu à l'école polytechnique, qui a eu les meilleures notes sur 500 élèves français ou étrangers à l'X en maths et en physique, il n'avait pas été vraiment bien détecté dans son pays. Et paradoxalement, il a été détecté quand il arrivait en France parce qu'il avait une meilleure adaptation aux langues. D'autre part, ce système donne de bons résultats sur quelques années, notamment les meilleurs résultats. Le pic de résultats est vers 17-18 ans au moment du bac. Et c'est ensuite que commence pour certains l'effondrement. Ça, c'est dramatique. Moi, j'ai vu plusieurs...
L'effondrement de leur niveau ou de leur psychisme?
Les deux. Les deux.
Oui.
Et j'ai beaucoup d'exemples, hein, quand même, de médaillés, les meilleurs, hein, J'ai eu le meilleur mathématicien du monde aux Olympiades mondiales 2006, les deux meilleurs. Il y en a un qui vraiment va pas bien du tout. C'est un peu comme chez nous. Si vous regardez de près les lauréats du concours général, je suis moi-même lauréat d'ailleurs, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux étaient super bons à 17, 18 ans. Ils sont moins bons après. Donc je crois qu'il faut mettre en place des dispositifs qui permettent aux meilleurs de s'épanouir sans cependant que cette pression puisse par la suite leur nuire. Ça, c'est très difficile. En général, en France, les proviseurs de bons lycées savent faire ça. Hein.
Sophie Cotte, John Freeman, qui est une Anglaise spécialiste, une grande experte mondiale sur de la précocité, a fait une étude sur la création et la créativité. Et elle constatait une chose, c'est que des enfants qui étaient extrêmement créatifs, dès l'instant qu'on les mettait en prépa aux grandes écoles, c'était le carcan. Alors, il fallait y rentrer pour réussir. Si on n'y rentrait pas, on ne réussissait pas. Donc, on a stérilisé beaucoup de créativité des enfants précoces dans ces grandes écoles.
Ladislaskis, j'aimerais qu'on parle un peu du psychisme de ces jeunes, de cette fragilité qu'ils ont, puisqu'on va aller parler parfois d'un effondrement à un certain âge, au cours de leur parcours, de leur vie.
Oui, alors,
qu'est-ce qui se passe sur le plan psychique ?
Chaque cas est particulier. Hein. Les humains sont comme des empreintes digitales. Chacun a son empreinte, on va dire, psychique. Certains enfants ont vécu en effet des difficultés relationnelles, précoces, familiales ou interpersonnelles qui les ont éveillés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un grand stress et ce stress leur a permis d'avoir une acuité, on va dire, intellectuelle très jeune. Ce qui a pu favoriser leur capacité développementale.
Et vous voulez dire, attendez, qu'ils ne sont pas nés avec leur intelligence au-dessus de la moyenne.
Ils ont un
bagage. Événement de la vie qui les a rendus très doués.
Moi, personnellement, je pense qu'on a tous à peu près la même intelligence potentielle et qu'il y a des mécanismes de défense qui peuvent être très puissants, qui empêchent de se développer.
Vous avez des exemples à me citer dans ce que vous voyez passer dans votre cabinet? Je ne demande pas des noms, mais des exemples précis.
Oui, il y a des enfants qui passent même des tests. Et au test, ils ont vraiment, je sais pas, 90 ans, c'est-à-dire ils font très moyen, voire très très bas. Et ces tests ne sont pas valables parce que l'enfant est inhibé, est déprimé, et ça les psychologues le savent très bien. Une fois que la dépression, l'anxiété ont disparu, ou que les troubles relationnels, intrafamiliaux ont disparu, l'enfant peut se développer. Il y a même des enfants très intelligents qui baissent leur intelligence pour protéger leurs parents, c'est-à-dire des parents qui ont un bas niveau socioculturel, envoient un message inconscient à l'enfant, c'est-à-dire « je ne dois pas dépasser mon père et ma mère ».
Odon Vallée, ça peut être le cas dans des sociétés traditionnelles.
Ça peut être le cas tout à fait. Il y a le terrible problème de l'envoûtement. Alors l'envoûtement, ça existe. Hein. C'est pas des blagues. Ce sont des élèves qui réussissent, qui risquent de quitter le milieu familial, le milieu social, le village, la société locale, tribale aussi. Et donc, on jette un sort à ces enfants. Hein. Ce sont des parents ou des oncles et tantes qui jettent un sort. Et l'enfant, il est comme paralysé en classe. Il peut plus écrire ni rien du tout parce qu'il risquerait par son intelligence de sortir de son cadre social et de perturber un équilibre ancestral. Ça, c'est absolument redoutable.
Ça, vous avez le sentiment que...
J'ai eu deux cas comme ça, oui.
Deux jeunes béninois.
Oui, absolument, oui.
Vous disiez dans votre livre, Sophie Cotte et Ladislaskis, qu'il y a souvent finalement des lignées d'enfants précoces. Sur une fratrie, souvent, on peut avoir deux, trois enfants sur les quatre, voire tous.
Hein. C'est un constat qu'on a fait.
On sait pourquoi sur le plan scientifique, Ladislaskis
sur le plan scientifique, il ne serait pas politiquement correct de dire que génétiquement, il y a plus de familles à potentialité intellectuelle. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un climat familial qui favorise le développement psychique et affectif. Et donc, il y a des familles qui sont beaucoup plus ouvertes et qui permettent le développement.
Est-ce que c'est héréditaire, la précocité? Des enfants précoces, ont-ils des parents très intelligents?
Ça, on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu encore d'études scientifiques sur ce sujet. Donc,
des parents qui ont trois enfants détectés comme intellectuellement précoces, ils ne peuvent pas être bêtes.
On ne dit rien là-dessus.
Je vais vous répondre.
On ne veut pas en parler. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'enfant tel qu'il est et d'essayer de l'aider à s'épanouir.
Ce que vous dites, c'est un cas clinique qu'on rencontre très souvent, des enfants très intelligents et qui se rendent compte que leurs parents sont idiots, entre guillemets. Alors, les parents ne sont pas idiots. Ils ont des mécanismes de défense qui font qu'en effet, ils n'ont pas pu se développer
intellectuellement. Ils ont eu le talent, en tout cas, de laisser développer l'intelligence de leur enfant.
Ils n'ont pas eu forcément le talent.
On peut pas empêcher.
Non, ils n'ont pas forcément eu le talent. Peut-être
que qu'il y a un climat familial.
Oui, mais justement, le climat familial, dans certains cas, c'est le fait d'être dans un milieu très stressant. On voit ça dans les favelas. Il y a à peu près, je ne sais plus, 2 ou 3% d'enfants qui s'en sortent très bien. Parce que, justement, ils étaient dans le grand stress.
Odon Vallée, le mot de la fin pour vous.
C'est très bien d'être doué, n'oublions pas la famille des doués, car si le doué ou le très doué progresse, l'écart avec son milieu social se creuse, et donc il faut aussi penser aux frères, aux sœurs, aux parents peut-être un peu moins doués, pour ne pas créer une fracture familiale.
Et penser surtout à réussir sa vie, au-delà des grandes écoles, des études, des diplômes, etc.
Bien entendu.
Merci à tous trois, Sophie Cotte et Ladislas Kiss. Vous venez de publier L'épanouissement de l'enfant doué, aux éditions Albin Michel. C'est très facile d'accès, on comprend tout, c'est très utile pour les familles qui se posent des questions. Odon Vallée, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour votre fondation, la fondation Vallée?
Bonne chance au concours, hein, et puis qu'il n'oublie pas un peu de s'amuser tout en travaillant.
Pour nous questionner ou bien vous nous livrer vos commentaires, école@rfi.fr, à la réalisation Jean-Marc Meunier, comme toujours, à la technique Alexis Levavasseur. Dans quelques instants, ça sera le journal sur RFI. Très très bonne semaine à tous. Au revoir et merci de votre fidélité.